L'Express du Grand Paris, pour aller plus vite, pour aller plus loin. Une émission présentée par Christophe Bordet.
Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de l'Express du Grand Paris. On est très heureux que vous soyez avec nous, bien évidemment. La première émission qui donne la parole aux habitants de la métropole ainsi qu'aux maires de toutes ces communes dont le présent et l'avenir sont impactés d'une manière ou d'une autre, évidemment, par la création de cette métropole, je le disais, XXL. Oui, c'est une métropole géante, métropole mondiale, européenne, le Grand Paris. Et en parallèle, le nouveau réseau de transport, le Grand Paris Express, censé désenclaver, on va dire, de nombreuses zones géographiques à la fois proches et en même temps si loin du cœur de la capitale, tellement le périple actuel en transport en commun est compliqué. Ça dépend d'où on vient, effectivement, et évidemment, mais parfois il vaut mieux habiter à Arras et venir travailler à Paris tous les matins. Ça prend moins de temps que d'être à Rambouillet, par exemple. C'est un exemple, au hasard, je ne vais pas faire de la mauvaise langue, mais quand même, c'est une réalité que beaucoup vivent, malheureusement. Alors, pour cette première émission, un coup de projecteur sur une commune. C'est Clamart, Clamart dans les Hauts-de-Seine, avec son maire Jean-Didier Berger qui est avec nous. Bonjour Jean-Didier Berger. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes également président de Vallée Sud, qui regroupe plusieurs communes. C'est quoi ? C'est une Vallée communauté Sud, de communes ?
C'est une intercommunalité.
Intercommunalité,
qui regroupe 11 communes et 400 000 habitants.
Bon, dites donc, j'ai envie de vous dire, je me disais ça en préparant l'émission d'ailleurs, le millefeuille administratif, bonjour, parce que entre la métropole, la région Île-de-France, les départements, la communauté ou les communautés de communes, les communes et j'en passe, les franciliens doivent se demander à quoi ça sert tout ça, et puis quand même ça a un coût, non ?
Ils n'ont pas tout à fait tort, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il faut faire de la simplification. D'ailleurs, le chef de l'État avait dit simplification drastique, donc on s'était dit tiens, on va passer de 5 niveaux à 2 ou 3. Non, finalement, on est toujours à 5 niveaux, donc on attend toujours la simplification drastique. Mais la réalité, c'est que vous avez dit, cher Christophe, métropole géante, métropole énorme, pour l'instant, c'est la métropole rikiki, puisqu'on est sur 7 millions d'habitants. On n'est même pas à la taille de la région qui fait 12 millions d'habitants, alors qu'il y a pas mal de métropoles dans le monde qui font 20, 30, 40 millions d'habitants. Donc, il faut à un moment donné
Mais ça va évoluer.
Ben, je ne sais pas si ça va évoluer, puisqu'on nous avait dit que la réforme serait faite fin 2017, début 2018. On est en 2021. Alors, évidemment, il y a eu plein de crises entre les deux. Ouais. Mais pourquoi est-ce que cette réforme n'a pas été faite ? Tout le monde se demande pourquoi. Et donc, moi, voilà, la réforme, la simplification, je l'appelle évidemment de mes voeux, et de faire cette métropole au moins à l'échelle de la région, parce que sinon on crée une région à deux vitesses.
Ouais, c'est un peu le problème effectivement, et on va en parler largement durant cette émission, les conséquences du Grand Paris pour les maires évidemment, puisque vous êtes leur représentant en quelque sorte aujourd'hui, pour les habitants, et on va voir ça également avec Christophe Cousin qui est président de l'association des commerçants du centre-ville de Clamart, qui est avec nous. Tiens, Christophe Cousin, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous à distance, parce que voilà, c'est comme ça, c'est la Covid-19 qui fait que on travaille un peu à distance. Combien de petits commerces à Clamart aujourd'hui, vous le savez ou pas ?
Moi, sur le centre-ville, on est à peu près 200, et puis une partie est adhérente donc à l'association des commerçants.
Est-ce que vous en sortez, pardon, avec évidemment cette problématique du confinement quand il a lieu ou du couvre-feu ?
Bah, il est vrai que ça a été difficile au début, surtout pour les commerçants qui étaient fermés. Après, on a eu, c'est vrai, grâce à la mairie et au territoire Vallée Sud, des aides qui ont permis de compenser ces pertes de chiffre d'affaires et aider tous les commerçants qui étaient fermés et aider également les commerçants qui étaient ouverts grâce à des masques, des scotchs de distanciation qui nous ont été mis à disposition, ainsi que du gel hydroalcoolique. Donc, on a été quand même pas mal accompagné par la mairie à ce niveau-là. Après, c'est sûr que forcément, les gens étaient un peu enclins à moins dépenser. Maintenant, c'est vrai que pendant les fêtes, on a eu la chance que les gens quand même sont allés beaucoup chez le petit commerçant. Et c'est vrai que c'était un plaisir de les revoir aussi solidaires avec nous.
Ouais, Christophe, tiens, redites-nous, vous vendez quoi, vous ?
Alors moi, je suis un magasin spécialisé dans l'informatique, dans la téléphonie et la photo. Donc, pendant le premier confinement, du coup, il n'y avait plus de photos du tout.
L'informatique, on a vu des plus 30, plus 40%. Ouais, voilà.
Ouais, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester, donc j'ai pu avoir pas mal de travail au niveau informatique. Après, voilà, la photo, malheureusement, bah, ne reprend pas trop de travail du fait que les gens voyagent plus. Donc, les passeports, on en fait beaucoup moins qu'avant.
Bah oui. Bon, vous restez avec nous, évidemment. On va aussi évoquer le Grand Paris et l'immobilier avec Sofiane Kamel, qui est au téléphone avec nous, agent immobilier dans le quartier de la gare à Clamart. Bonjour, Sofiane Kamel. Merci d'être avec nous au téléphone, c'est déjà pas mal parce que c'est vrai qu'on a essayé de vous avoir en visio et que malheureusement ça n'a pas fonctionné. Dites-moi en deux mots, vous qui êtes agent immobilier à Clamart, le Grand Paris, ça a déjà une incidence là sur l'immobilier clamartois, rapidement ?
Oui, complètement. On a observé concrètement une hausse des prix assez massive vraiment entre le centre-ville et la gare de Clamart. Depuis maintenant 2 ans. En fait, c'est devenu concret au tout début des travaux. Quand à l'époque on vendait le métro, il y a une dizaine d'années, bah, c'était encore très flou. Mais là, les gens, juste de voir vraiment les travaux de la gare, notre fameuse passerelle bleue hein, que tout le monde connaît en tant que Clamartois, qui prouve vraiment que les travaux sont là. Et donc effectivement, les prix sont quand même très impactés.
Ouais. Autour de la gare, on a du combien le mètre carré en ce moment ?
Alors aujourd'hui, sur de l'appartement, on va osciller sur de l'ancien, pour des appartements en très bon état, on va être aux alentours de 6 500, voire 7 000 euros. Et en VFA, donc sur plan, pour le neuf, on va être aux alentours des 8 500, une moyenne de 8 500 euros, voire 9 000 euros du mètre carré.
Ah oui, quand même.
Ouais. Sur les derniers programmes qui sont en train de se vendre, on va être sur ces bases de prix-là.
Bon, j'ai envie de dire à Jean-Didier Berger qui est avec nous, si ça continue comme ça au niveau des prix, il y a plein de gens qui ne vont pas pouvoir se loger. Hein.
Alors, on est encore en dessous d'autres villes.
Oui, bien sûr, si on compare à Paris ou à Issy-les-Moulineaux, d'accord. Mais
Même de communes frontalières, Issy-les-Moulineaux, Vanves, même Montrouge, toutes les communes qui sont plus au nord et plus proches de Paris. Mais à Clamart, on a tous les types de prix, puisque au fur et à mesure qu'on s'éloigne un peu de la gare, on a du 7 000, du 6 000, du 5 500, du 5 000. Donc voilà, les choses sont quand même permettent à tout le monde de se loger. Et surtout, dans tous les programmes, dans tous les ensembles, je développe tous les types de logements. Du logement social, du logement intermédiaire, du logement privé. Donc il y en a pour toutes les bourses. On fait en sorte que les Clamartois puissent rester à Clamart et que les enfants des Clamartois puissent aussi rester à Clamart. Et on aide aussi à l'accession sociale à la propriété pour faire en sorte que tout le monde puisse continuer à être clamartois.
Dites-moi, est-ce que vous sentez des Parisiens, il y a beaucoup de Parisiens qui partent du centre de Paris suite au confinement, à la Covid-19, etc. Est-ce que vous sentez qu'il y a un arrivage là du côté de Clamart chez
vous ? Et ça avait commencé avant, hein, c'est-à-dire que ça fait 5 ans, plus de 5 ans que Paris perd en moyenne 10 à 12 000 habitants par an.
C'est vrai.
C'est-à-dire que quand on a une politique qui est de faire de Paris une ville musée, comme Madame Hidalgo, eh bien, on se retrouve avec…
Là, je sens l'opposant, là, tout d'un
non,
coup.
Non, mais c'est un constat, c'est un choix. Et manifestement, les Parisiens, ils ont pris une décision, c'est de partir. Et donc, quand on fait la place belle au bureau, et puis quand on ne permet pas, et quand on rachète à prix d'or des logements pour les transformer en logements sociaux, finalement, on ne fait que renchérir aussi le coût de la vie à Paris. Et on se retrouve, les Parisiens, effectivement, ils préfèrent venir à Clamart. Pour le prix de leur appartement, ils peuvent avoir une maison avec un jardin ou ils peuvent avoir un appartement quasiment 2 fois plus grand. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas photo.
Bon, on va évoquer et continuer d'évoquer, évidemment, cet aspect-là, parce que l'aspect immobilier est très important, hein, bien entendu. Surtout qu'on n'arrête pas de dire, et c'est une réalité, qu'il n'y a pas assez de logements. D'ailleurs, je crois que depuis que je suis né, ça fait 50 ans, j'entends qu'il n'y a pas assez de logements en France. Donc, le problème est quand même très ancien, globalement. Et même en construisant des logements neufs, il n'y a toujours pas assez de logements. Donc,
parce qu'on a pris un retard colossal pendant des années. Puis, il n'y a pas que la question du logement, il y a aussi la qualité de vie. Quand on habite Paris et qu'on a des rats dehors, quand on a une ville qui est sale et avec beaucoup d'embouteillages compte tenu de la politique qui a été menée, on est content d'aller dans une ville qui a les avantages de Paris sans les inconvénients.
Un peu de verdure aussi. Et le bois.
Le bois à Clamart, c'est un tiers de la ville. C'est considérable.
On va en parler à nouveau dans un instant. Pour évoquer le Grand Paris également avec nous à distance, Aurélien Delpirou, maître de conférence à l'École d'urbanisme de Paris, auteur de l'Atlas du Grand Paris aux éditions Autrement. D'ailleurs, je montre cet atlas parce qu'il est particulièrement bien fait. C'est vraiment très intéressant parce que ce sont des petites fiches qui permettent véritablement de bien comprendre ce qu'est ce Grand Paris qui a accouché dans la douleur. Et là, on a plein de petites fiches très intéressantes. Une région dans l'ombre de l'État, par exemple, entre ville ordinaire et grand projet. Enfin, je vous conseille vivement de l'acheter si vous le trouvez, bien évidemment, notamment sur Internet. Aurélien Delpirou, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Un petit rappel quand même, parce que c'est intéressant, on a entendu déjà les interlocuteurs et le maire de Clamart, Jean-Didier Berger, s'exprimer un petit peu sur le Grand Paris. On continue d'en parler avec vous. On pourrait faire un petit rappel assez rapide, historique, de cette métropole du Grand Paris et les enjeux ?
Oui, alors la question du Grand Paris, elle se pose depuis longtemps. Elle s'est traduite, il y a eu une accélération à partir, on va dire, du milieu des années 2000, sous l'impulsion à la fois du président Sarkozy et d'initiatives plus locales, portées notamment par l'adjoint à Bertrand Delanoë, Pierre Mansat, en lien avec de nombreux maires de première couronne. Et ça a donné lieu à différentes initiatives, à une loi, à un grand projet qui est en réalité un projet de transport, le Grand Paris Express dont vous avez parlé au début de votre émission, plus qu'à une véritable stratégie territoriale ou à des projets urbains identifiés. Et enfin, elle a eu une traduction institutionnelle. Je partage tout à fait ce qu'a dit Monsieur Berger, qui est une traduction sur un périmètre étroit, limité, ce qu'on appelle une métropole intégrée, alors que c'était développé depuis une quinzaine d'années plutôt des coopérations entre les territoires sur un format plutôt fédératif en réalité. Donc on a une petite métropole dont on ne comprend pas très bien finalement les compétences, l'intérêt, le fonctionnement, et qui conduit aujourd'hui à une situation d'impasse institutionnelle.
Ouais, donc si je vous dis juste une chose, si je vous dis Aurélien Delpirou, c'est quoi les conséquences de la métropole du Grand Paris aujourd'hui? Vous me répondez quoi alors?
Aujourd'hui, la métropole du Grand Paris est une coquille vide. Elle a un certain nombre de compétences, mais elle n'a pas forcément ni les moyens ni les effectifs pour les exercer, notamment en matière de planification, en matière de politique du logement. Elle pourrait avoir, si vous voulez, un rôle, mais la façon dont elle a été aussi pensée et la façon dont ses compétences ont été exercées ne permettent pas de lui jouer un rôle de leadership à l'échelle métropolitaine. Il faut bien dire qu'elle est aussi prise en tenaille entre des niveaux institutionnels qui sont complexes, la région, les départements, les intercommunalités et les communes qui conservent un pouvoir très fort. Ceci dit, je voudrais dire, il n'y a pas de périmètre magique pour gouverner une métropole. C'est vrai qu'on a beaucoup de strates, on a beaucoup de couches dans le millefeuille métropolitain grand parisien, mais j'aime à dire souvent que le problème n'est pas tant les couches, c'est plutôt la crème dans le millefeuille, c'est-à-dire la façon dont ces strates peuvent, sur la base de projets communs, coopérer, se coordonner, éviter des concurrences. Vous avez parlé de deux domaines absolument centraux pour l'avenir de la métropole, la question bien sûr du logement, et on voit qu'on a des effets de spéculation qui sont très forts, qui ont été accentués par la construction du Grand Paris Express, et là il faudrait une coordination d'échelle métropolitaine pour que chacun prenne sa part d'effort dans la construction pour éviter les effets de spéculation et les inégalités en matière de niveau de loyer. Et puis j'entendais aussi parler du commerce. Clamart a la chance d'avoir conservé un centre commerçant qui est assez vivant, qui est assez actif, mais elle est entourée aussi de très grands centres commerciaux, dont les...
Vélizy, oui, Vélizy.
Par exemple, Vélizy, dont les maires ne souhaitent pas forcément, si vous voulez, n'accepteraient pas forcément de limiter leur développement. Donc, vous voyez, moi, je pense que sur un même diagnostic que celui de M. Berger, j'appellerais plus à dépasser l'échelle communale pour construire des politiques véritablement métropolitaines qui prennent en charge ces problèmes à la hauteur des enjeux qui sont posés aujourd'hui.
Ouais. Jean-Didier Berger, un mot par rapport à ce qui vient d'être dit, parce que je trouve quand même que Aurélien Delpirou met le doigt où ça fait mal. Vous parliez du millefeuille tout à l'heure en disant « oui, il faut le réduire, ça ne va pas, etc. Mais, » mais c'est vrai que chacun veut son espace de pouvoir. Quoi. C'est ça aussi le problème.
Ouais,
d'ailleurs,
mais c'est ça qu'il faut dépasser.
Vous-même, vous êtes président de Vallée-Sud, donc vous avez votre espace de pouvoir. Est-ce que vous avez envie de le lâcher au profit d'autre chose ?
Et moi, je crois qu'il faut que chacun fasse un petit effort, parce que d'abord, moi, je suis de passage sur cette terre. Et oui, après, avant moi, il y avait d'autres
la
élus.
La présidente de région
après
aussi.
Après moi, il y aura d'autres élus. Mais tout le monde.
Monsieur Ollier, le président de la métropole.
Mais tout le monde. Donc, il faut dépasser ça pour voir l'intérêt général. Moi, je suis convaincu que si on veut régler des grandes problématiques, comme il vient d'être dit, c'est-à-dire, par exemple, la pollution, les inondations, la gestion de la circulation, les grands enjeux de tourisme à l'échelle internationale, il faut pas une région... Il faut pas, pardon, une métropole à 7 millions d'habitants. Déjà 12 millions d'habitants, ça paraît déjà une taille beaucoup plus raisonnable. Donc moi, je suis clairement pour une métropole régionale. Et puis, les intercommunalités comme celle que je préside, à 400 000 habitants, on est déjà plus gros que la moitié des départements. On a une taille déjà plus grosse que la moitié des départements français. Donc, je vois pas comment on veut nous amener à faire encore quelque chose. On gère, par exemple, les poubelles. Les poubelles à 400 000 habitants, la collecte des déchets, on sait le faire.
Ouais, d'ailleurs, il serait temps, moi je suis allé à Clamart hein, faire un tour, il serait temps de ramasser des sapins de Noël qui traînent depuis une semaine sur les trottoirs.
Pardon, vous inquiétez pas, les sapins tous les ans, on a l'habitude.
Il y a du vent, ils sont en plein milieu des trottoirs,
mais en attendant,
on peut pas marcher.
Si vous interrogez les Clamartois, ils vous diront que grâce aux économies d'échelle qu'on a faites sur la collecte des déchets, ils ont leur taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui baisse chaque année depuis 3-4 ans et pour 10 ans consécutifs. Donc, il n'y a pas beaucoup de collectivités qui sont capables de proposer ça. Mmh. Et regardez bien, dans d'autres collectivités, on a parlé de Marseille il n'y a pas très longtemps, quand il y a des problèmes de grève de poubelles, là, on en entend parler, mais sur 400 000 habitants, il n'y a pas beaucoup d'incidents sur une ville comme Clamart et sur une intercommunalité comme Clamart. Mmh. Est-ce que demain, on pense vraiment qu'une métropole sera capable de gérer la collecte des déchets? Je pense que personne ne va se risquer à essayer ça, parce que tout le monde voit bien qu'il faut à la fois de la proximité, mais en même temps une taille critique pour pouvoir faire des marchés qui permettent de faire des économies. Donc je pense que voilà, à 400 000 habitants, on est vraiment pas mal.
Bon, en tout cas, donc cette métropole du Grand Paris qui patine, hein, on l'a compris à travers tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission. Et en parallèle, et ça c'est l'État directement qui a la main, le réseau de transport. Le réseau de transport qui est révolutionné, qui va être révolutionné, le Grand Paris Express. À Clamart, tout d'abord, ça signifie quoi concrètement ce Grand Paris Express ?
Concrètement, on a la première gare du Grand Paris. Alors vous me direz, avoir la première gare, oui, c'est un avantage.
Tous les maires disent « moi, j'ai la première gare ».
Je ne pense pas que les autres le diront, parce que nous, on est vraiment celle où les travaux ont démarré, mais je relativise tout de suite cet avantage, parce que vous comprenez bien qu'avoir la première gare, si les trains restent bloqués dans la gare de Clamart, ne peuvent pas aller ni dans la gare d'Est, ni dans la gare de l'Ouest.
C'est sûr que si les rails ne sont pas posés, ça va être un problème.
Donc, ça ne sert à rien. Mmh. Bon. Mais on est quand même heureux de se dire que voilà, on va bénéficier du premier tronçon très rapidement, et surtout, ça va nous mettre à quelques minutes de la Défense à terme. Donc pour Clamart, c'est une révolution. Là où il fallait passer par le cœur de Paris pour prendre les transports en commun et aller à la Défense, on va pouvoir y aller directement. Donc c'est 20, 30, 40, 50 minutes de trajet économisé et deux fois par jour pour ceux qui vont se déplacer. Par ailleurs, il y a sur le territoire, pas simplement la gare de Clamart, mais également la gare de Châtillon-Montrouge également. Donc et puis à terme, une autre gare également sur la ligne 18, du côté d'Antony. Donc, on est vraiment sur une révolution de transport. Il y a un siècle, le métro. Il y a un demi-siècle, le RER. Et là, on est avec ce projet de transport en train d'apporter enfin une pierre. Là, c'est vrai que la région et sa présidente Valérie Pécresse font énormément pour rénover tout l'existant. Il faut faire les deux en même temps. Il faut améliorer la qualité de l'existant, changer les trains, changer les rails, c'est ce qu'elle a fait. Et aussi prévoir l'avenir et augmenter. C'est vrai qu'on a déjà le réseau le plus dense d'Europe en termes de transport en commun, peut-être même du monde, et en plus à un prix, celui du Pass Navigo, qui est quasiment le moins cher. Donc on est déjà fort bien servi, mais on voit bien qu'on a beaucoup de gens qui prennent les transports en commun en ce moment, avec la Covid un peu moins, mais c'est quand même régulièrement qu'on entend parler de la saturation des transports en commun. Donc on voit bien que l'enjeu, c'est d'être capable d'investir et de mettre un haut niveau de service. C'est pas le tarif, il est déjà ridiculement bas, mais c'est vraiment de faire de la qualité.
Mais alors, dites-moi, moi, j'écoute évidemment les franciliens, les parisiens. Je me fais un peu leur porte-voix d'ailleurs, là. Mais on va demander à nos invités, eux, justement, ce qu'ils en pensent aussi. Vous savez que cette nouvelle gare, ce nouveau métro, hein, aussi, c'est la ligne 15, hein, je crois, hein, c'est ça. Ça inquiète aussi des habitants à Clamart. Ça les inquiète parce qu'ils se disent Clamart, c'est un village. On est tranquille. On est heureux. Il y a cet esprit village, chaleureux, sympathique, etc. Et on se demande bien quelle population va nous arriver par ces tronçons qui vont rapprocher un certain nombre de lieux. Et est-ce que vous êtes en mesure de rassurer les habitants de Clamart là-dessus aujourd'hui ?
Il y a des aspirations toujours contradictoires, c'est-à-dire que…
En gros, la peur, c'est la délinquance, quoi. C'est ça le truc.
Oui, je ne sais pas si c'est vraiment cette crainte-là. Bon, on voit bien que des villes qui bénéficient des transports en commun, comme ici les Moulineaux, comme Boulogne, ou comme le Valois, ou des villes qui ont le métro, comme Montrouge, ne se plaignent pas, loin de là, d'avoir ces transports en commun. Et jusqu'à présent, Clamart était plutôt à l'abri des transports en commun. Là, on a un premier tramway qui est arrivé, le T6. On a la gare du Grand Paris qui arrive. On a un deuxième tramway, le T10, qui est en pleine construction, en plein travaux, et qui va ensuite être relié, je l'espère, en souterrain directement jusqu'à la gare Grand Paris qui nous concerne. Donc, une fois qu'on aura ça, on aura vraiment désenclavé complètement la ville et on permettra à des tas de Clamartois de d'étendre leur capacité à trouver du boulot. Parce que c'est ça aussi le sujet. C'est comment est-ce qu'on permet à nos jeunes de trouver facilement du travail sans avoir à aller habiter ailleurs. Et ça, c'est quelque chose de majeur.
Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est intéressant ce que vous dites là sur trouver du travail. Trouver du travail en habitant à Clamart et en allant travailler, par exemple, à La Défense ou à Paris. C'est ça que vous êtes en train de dire. Moi, j'ai envie de vous dire, mais créez donc des entreprises sur votre commune, Jean-Didier
Berger.
Mais
on en a déjà.
Il y a une zone d'activité qui paraît à l'abandon, presque.
Non, je dirais pas ça. Il faut savoir que, par exemple, la zone d'activité Plessis-Clamart, puisque c'est de celle-là dont vous parlez, est la deuxième du département après La Défense, donc c'est pas rien. On a beaucoup d'emplois. On a des milliers et des milliers d'emplois. Il y a peu de communes qui ont autant d'emplois que nous. Évidemment, on aimerait bien en avoir encore davantage, mais vous savez que depuis plus de 10 ans maintenant, il y a une crise de l'immobilier de bureau et qu'avec la Covid,
ça va pas s'arranger.
Et même les villes qui ont tout misé sur le bureau, aujourd'hui, elles ont plutôt du souci à se faire parce que ces zones vont, elles, se désertifier. Et quand je suis arrivé, c'est vrai qu'il y avait par exemple 25% de vacances de bureau quand je suis arrivé. Pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup de bureaux très anciens. Donc, j'ai démoli la plupart de ces bureaux anciens et maintenant, on reconstruit des bureaux neufs. Par exemple, j'ai créé un quartier de toutes pièces autour d'un lac avec 2000 logements, mais aussi 4000 m² de bureaux, 4000 m² d'activités hôtelières, des commerces pour recréer de l'emploi sur site. Mais c'est fini le temps. On avait tous les bureaux d'un côté, tous les logements de l'autre. Et maintenant, il faut que tout le monde vive ensemble. Parce que sinon, on a des quartiers de bureaux qui vivent le jour, mais pas la nuit. Et puis inversement, des quartiers de logement qui accueillent les gens pour aller dormir. Et on a des cités dortoirs.
Puisque vous parlez de ces nouveaux logements que vous faites construire, que vous avez initiés, on va dire que c'est du néo-haussmannien.
Non, moi, je dirais pas ça. Ça dépend du quartier. Par exemple, j'ai fait un quartier entièrement en art déco. Voilà, quelque chose de beaucoup plus classique et de la pierre de taille. D'autres endroits,
non,
on a plus de modernité.
Il y a des Clamartois qui me disaient l'autre jour, il est en train de nous construire du Disneyland. Vous répondez quoi à ça ?
Vous savez, moi, je sais pas, ce que je constate, c'est que les gens payent pour aller à Disneyland, alors qu'il y a beaucoup de banlieues dans lesquelles, même en étant payé, on n'aurait pas envie d'aller.
Ouais. Bon,
mais en l'occurrence, je ne crois pas que ça ait grand-chose à voir avec l'architecture qui est développée à Clamart. Disney, c'est un projet différent. Moi, j'essaie simplement de faire une architecture dans laquelle les gens se sentent bien. Bon, et on constate quand même avec le temps que tous les projets qui ont été faits avec des trous à la place des fenêtres, sans toit, sans détails architecturaux pour des raisons financières, hein, pour faire des constructions qui coûtaient moins cher et aller plus vite, finalement, c'est pas dans ces quartiers-là qu'on vit le mieux. Et on voit bien qu'avec l'ANRU et la rénovation urbaine, ils sont plutôt en train de démolir tous ces quartiers pour refaire des quartiers un peu plus sympas. Et d'ailleurs, souvent, ceux qui théorisent ce genre de critiques, quand on leur demande eux où ils habitent, ben ils habitent plutôt dans des coins avec de l'architecture classique, avec des toits, avec des volets, avec des voilà. Donc c'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Et voilà, moi je constate quand même que tous les projets qu'on a mis en place à Clamart, Bah, ils plaisent.
Et Christophe Cousin, tiens, qui est toujours avec nous, qui est le président des commerçants du centre-ville de Clamart et qui fait de la photo et vend du matériel informatique, je le rappelle. Qu'est-ce que vous attendez, Christophe Cousin, vous, eh bien, de ce Grand Paris Express, de cette nouvelle gare, de ce nouveau métro, de ce rapprochement que ça va créer entre Clamart et la capitale?
Bah, je trouve ça intéressant parce que avant je travaillais dans un commerce à Estimoino qui est avec le métro et énormément de transports et on peut dire que ça ramène quand même énormément de gens puisque les gens viennent travailler sur la ville et consomment aussi du coup dans la ville dans laquelle ils sont desservis par les transports. C'est vrai qu'à Clamart on a quand même quelques transports et que ce moyen de transport là avec une rapidité de déplacement va permettre de ramener énormément de gens qui n'est pas forcément sur la commune. Et donc, ça peut nous faire avoir une nouvelle clientèle, je pense, sur du long terme.
Oui, ça, c'est ce que vous souhaitez, bien évidemment, et on vous comprend, hein, vous avez raison, effectivement. Il y aura même peut-être des touristes en plus, intra-régionaux, c'est tout à fait possible. Pas d'inquiétude, vous qui êtes un Clamartois, pas d'inquiétude justement sur les conséquences sur les prix, parce que tout peut augmenter à cause de ça aussi.
Non, je suis pas trop inquiet à ce niveau-là. Je pense que on a la chance d'être dans un coin du 92 où là il fait bon vivre. Donc, ouais. Je suis pas trop inquiet à ce niveau-là.
Une question encore, Jean-Didier Berger. Est-ce que ces grands travaux qui ont lieu autour du Grand Paris Express, ce réseau de transport, ça a créé des emplois? Il me semble, hein, dans mes souvenirs, dans mes fiches, avoir lu qu'on devait créer au total 18 000 emplois, puis que finalement, c'était plus autour des 10 000 au total, hein, bien entendu. Sur Clamart, est-ce que ça a créé de l'emploi ou pas?
Oui, ça a créé de l'emploi aussi parce qu'on s'est mis d'accord avec la société du Grand Paris qui construit ce super métro pour faire des clauses d'insertion aussi, c'est-à-dire qu'ils ont réservé auprès des entreprises qui ont obtenu leur marché public des heures sur lesquelles on place des jeunes du territoire pour leur mettre le pied à l'étrier, pour faire en sorte de leur offrir une qualification en direct. C'est pas facile de trouver du boulot quand on est jeune, donc d'avoir le pied mis comme ça à l'étrier, ça permet ensuite de démarrer une carrière dans le monde professionnel.
Aurélien Delpirou, maître de conférence à l'école d'urbanisme de Paris, auteur de l'Atlas du Grand Paris, je le rappelle et je le remontre, tiens, puisque nous sommes ensemble, autant en profiter si vous le trouvez sur internet, achetez-le parce que c'est vraiment très intéressant, plein de fiches très concrètes et très détaillées à l'intérieur pour comprendre la métropole du Grand Paris. Au niveau des transports, Aurélien Delpirou, vous pensez que ça va permettre réellement de changer la donne entre Paris et puis tout ce qu'il y a autour, toutes ces difficultés qu'on a quotidiennement dans les transports pour aller travailler à Paris quand on habite à 20, à 30 kilomètres. Tout ça va être effacé par ces nouveaux transports, ces 200 kilomètres?
Alors effacé, certainement pas. Il y a évidemment des trous encore dans la desserte et comme l'a dit Monsieur Berger, on a trop longtemps laissé pourrir l'existant. Hein. Certes, on a un réseau dense, efficace, mais les conditions de déplacement des citoyens de la métropole sont tout de même très dégradées depuis une trentaine d'années. Hein. Alors toutefois, je dois dire qu'on ne peut que se réjouir d'un investissement du Grand Paris Express, un investissement massif qui au début... finalement, était pensé plutôt pour servir les grands clusters économiques de la capitale dans l'objectif d'un rayonnement mondial et qui a été petit à petit reconfiguré pour améliorer l'accessibilité quotidienne. Et ça, on peut vraiment s'en réjouir. C'est-à-dire qu'il y a des connexions très nombreuses entre le nouveau réseau et l'ancien. Il y a des itinéraires de rabattement qui vont, par exemple, bénéficier à la Grande Couronne, hein. La Grande Couronne va voir ses temps de trajet vers Paris diminuer. Et enfin, chose majeure, le Grand Paris Express est la première infrastructure lourde qui est tangentielle à la ville de Paris. Hein, tangentielle, ouais. C'est-à-dire c'est une infrastructure de rocade. Et comme l'a dit M. Berger, finalement, les grands pôles d'emploi de la périphérie parisienne, Marne-la-Vallée, la plaine Saint-Denis, la Défense, Antony, vont pouvoir être connectés les uns aux autres. Et ce qu'on en attend, c'est une fluidification de ce marché de l'emploi et une démultiplication des opportunités. Ceux qui militent, et j'en termine avec, vous l'avez compris, ce qui est un peu l'une de mes lubies, ceux qui militent une nouvelle fois pour une appréhension métropolitaine des problèmes. Les Clamartois, comme tous les autres habitants d'ailleurs des communes limitrophes sont sans doute très attachés à leur ville, mais dans leur pratique, dans leur mode de vie, ils peuvent travailler à Antony, étudier à Nanterre, consommer à Paris. Et donc, ce sont aussi des usagers de cette métropole. Et le Grand Paris Express, comme d'autres projets politiques, doivent permettre d'accompagner finalement cette transformation des modes de vie.
Bon, Aurélien, est-ce qu'on vous a donné envie de venir habiter à Clamart ?
Ah, tout à fait, c'est une ville où j'ai une collègue et une amie, c'est une ville très attachante, mais qui doit encore travailler sur son équilibre hein, entre le haut et le bas. Et c'est une ville, en effet, où le maire a accepté de jouer le jeu de la métropole en construisant. Et ça, c'est aussi à mettre à son crédit, il n'a pas peur, c'est un maire bâtisseur.
D'ailleurs, certains lui reprochent, hein, parce que certes, il y a le bois, mais peut-être qu'il faudrait un parc supplémentaire que il n'y a pas aujourd'hui à Clamart.
C'est ce qu'on vient de faire. On vient de livrer un parc de 5 hectares
avec l'étang,
avec 2 hectares d'étang. J'aimerais bien qu'on me dise quelle est la ville dans le Grand Paris qui livre des étangs de 2 hectares en petite couronne.
Alors ça, c'est le haut de Clamart. Hein. Panorama,
la frontière entre le haut et le bas. Et je vous invite à aller découvrir ce nouveau quartier qui est magnifique.
Bon, si vous me permettez, je pense qu'on peut faire de la qualité et de l'innovation architecturale sans recourir à du pastiche. Et je ne suis pas convaincu ni par l'esthétique, ni par la qualité des matériaux productions récentes.
Je vous invite à revenir. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez, mais je vous invite à regarder votre habitation aujourd'hui et dans 10 ans, et à revenir au panorama et à regarder, parce que quand on construit comme je le fais en pierre de taille massive ou semi-massive, c'est tout à fait durable. Et moi, ce que je constate, c'est que tous les bâtiments qu'on est en train de démolir aujourd'hui partout dans la métropole et dans la région sont des bâtiments relativement récents à l'échelle de l'histoire de notre pays, alors que des bâtiments beaucoup plus anciens tiennent encore très très bien debout, et c'est même plutôt ceux-là qu'on a envie de conserver, et en général c'est pas les plus moches.
Le temps le dira.
Merci Aurélien Delpirou, et puis alors venez à Clamart, hein, prenez rendez-vous avec Jean-Didier Berger, tout
plaisir.
À la fois de réhabiliter tout ça, voilà. Hein. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous avec cet atlas du Grand Paris, une métropole en mutation, voilà, très bien écrit, je le rappelle. Un dernier mot à Christophe Cousin, notre commerçant de Clamart. Tiens, Christophe Cousin, on va voir si vous seriez bon en matière de tourisme. Si vous deviez donner envie à tous ceux qui nous écoutent de venir à Clamart, vous diriez quoi ?
Venez découvrir, on a beaucoup de choix dans les commerçants, on a beaucoup d'animations qui sont faites au long de l'année, hors période bien sûr Covid, et on a une charmante rue piétonne et un centre-ville qui est en train d'être petit à petit rénové, une ville qui est en pleine rénovation également, et c'est une ville où il fait bon vivre, ça fait petit village et c'est vraiment agréable, et avoir une rue piétonne dans des villes, il n'y en a pas partout, et c'est vrai que ça peut donner envie de se balader et de venir profiter, et puis les commerçants sont quand même assez agréables avec tout le monde, donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à venir.
Alors, pour ne rien vous cacher, je me suis amusé en allant à Clamart à tester les couronnes des rois et les galettes des rois chez les boulangers. Je ne dirai pas où elle est la meilleure, mais il y a de très bons boulangers. Il faut quand même d'excellents boulangers, voilà, absolument. Merci beaucoup Christophe d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de bonnes choses, plein de boulot, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est évidemment important. On remercie Sofiane Kamel, qui est agent immobilier quartier Gare. On l'a entendu un peu au téléphone tout à l'heure, mais c'est vrai que la liaison était pas très bonne. En tout cas, on le remercie d'avoir été avec nous pour nous donner les prix et les prix du mètre carré à Clamart, dans l'ancien comme dans le neuf, ça flambe, hein, et ça va continuer de flamber.
C'est le moment d'investir.
Oui,
c'est le moment de venir habiter.
C'est bizarre, vous me disiez ça. Tiens, j'ai l'impression que vous voulez vendre quelque chose.
Je vends ma commune, je vends ses commerçants et je fais en sorte.
Le premier commerçant de Clamart, c'est son maire, en fait.
C'est un peu ça, mais c'est une ville qui avait peu d'image, et tout l'objectif, le mien, celui de toute mon équipe, c'est de faire en sorte que Clamart soit mieux connu, parce que c'est une ville qui gagne à être connue.
À être connu. Merci beaucoup, Jean-Didier Berger, merci, maire de Clamart, d'avoir été donc le premier invité.
J'en suis flatté.
Vous l'inaugurez, cette émission, donc j'espère que vous allez nous porter bonheur, bien entendu. L'Express du Grand Paris qui va revenir très très bientôt sur Radio Territoria. Et puis vous pouvez nous retrouver, bien entendu, sur nos réseaux sociaux. On vous salue et à très vite.
L'Express du Grand Paris, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.